Alors, ça me fait plaisir de passer maintenant à mon collègue Christian Nadeau, qui est professeur en philosophie au département à l'Université de Montréal. Il s'intéresse à la fois à l'histoire de la philosophie et à des sujets contemporains en démocratie et en justice sociale, notamment la notion de la guerre juste. Comme Daniel, il intervient régulièrement dans le débat public. Alors, même quand j'étais en sabbatique à Berlin l'année dernière, ses interventions sur le printemps arabe se sont rendues jusqu'à Berlin. Il s'est aussi prononcé, juste pour nommer un autre sujet, sur le conservatisme du gouvernement de Stephen Harper. Et ça me fait plaisir de lui passer la parole maintenant.
Merci. Alors, merci donc aux organisateurs pour m'avoir invité. Moi aussi, je vais y aller de quelques anecdotes, mais très rapides, ne vous inquiétez pas. La première fois que j'ai vraiment eu un contact prolongé avec Daniel Van Schaak, en fait, c'était justement parce que Daniel acceptait de donner une conférence à 4 heures de route de Montréal, c'est-à-dire à Lac-et-Chemin, qui est le petit village où je suis né, ou enfin, où sont mes parents, quelque part vers la Beauce, où il acceptait de donner une conférence dans un sanatorium. Enfin, on a fait la route ensemble. Et là, on s'est mis à parler de projets. Parce qu'il se trouve que je devais partir à Boston pour un postdoc, et finalement, les règles de la Bourse faisaient en sorte que je devais revenir à Montréal. Et très rapidement, Daniel a accepté donc de superviser ce stage postdoctoral. Ce qui fait de moi, d'une certaine mesure, oui. Et là, j'ai un peu, je me donne cet honneur, le premier postdoc, en fait, du CREUM, c'est-à-dire avant même que le CREUM n'existe, mais j'ai participé à la conception du CREUM, notamment au moment de l'organisation d'un colloque qui s'est produit, donc, non pas en février, mais bien en mars 2002, c'est-à-dire le républicanisme, histoire, théorie et pratique, qui réunissait d'ailleurs des gens comme Rio Hachong était déjà là, Philippe Petit, Wayne Norman qui devait être des nôtres. Et c'est un colloque qui a été, disons, très marquant pour moi, qui a orienté en bonne partie ma recherche. Et c'est là aussi qu'apparaît un personnage qui est fondamental dans l'histoire du CREUM et qui a joué un rôle dans l'ombre, mais qui est vraiment extrêmement important, puisqu'il a été, disons, c'est lui qui a travaillé à faire en sorte que le CREUM devienne un véritable centre de recherche. C'est en fait le premier coordonnateur, d'une certaine mesure, avant même que le titre existe, c'est David Robichaud. Donc David Robichaud a joué un rôle, alors qu'il était étudiant et qu'il avait beaucoup d'autres chapeautés, il a joué un rôle fondamental. Les premières affiches, en fait, du colloque aussi du CREUM sont de David Robichaud. Pendant longtemps, en fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les affiches de David en changeant les titres, en mettant une autre photo ou ce genre de choses. Ce qui fait en sorte que bon nombre des colloques au début du CREUM portaient le titre « Histoire, théorie et pratique ». J'ai trouvé ça très drôle de voir que là, c'est les mains sales de la théorie à la pratique. Je me suis dit « Ah, avec les années, l'histoire a disparu ouais. ». Mais là, les mains sales ont une histoire. Parmi ces histoires, la contribution donc de David Robichaud qui est extrêmement importante. Un autre moment historique aussi très important pour moi dans l'histoire du CREUM, c'est l'apparition de Peter parmi nous. C'est-à-dire, quand Peter est arrivé, il y a eu une année en fait vraiment exceptionnelle. Il y a eu, je ne dis pas ça pour médire les autres années, elles ont toutes été exceptionnelles. Mais disons, une année qui, moi, pour moi, a été vraiment un grand cru, c'est l'année où Peter a été parmi nous, où il y a eu vraiment une effervescence, un dynamisme intellectuel. Colin McLeod aussi était là, Vigel. Donc ça a été des années fabuleuses. Ça a été vraiment des années où on avait... C'est là où on s'est mis à faire de plus en plus de groupes de lecture, et c'est quelque chose qui s'est perpétué par la suite. Donc ça, c'est des éléments très, 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 très important. Alors, ces choses étant dites, j'aimerais en venir donc au thème, et là je vais peut-être faire un détournement du thème, mais ça m'apparaît, disons, pertinent par rapport à ce dont nous voulons parler. Alors, quand j'ai vu le thème au début, moi je n'ai pas du tout pensé à, disons, des considérations comme la place de l'éthique dans la société ou ce genre de choses. Moi j'ai eu l'esprit un peu mal tourné, je ne sais pas, j'ai tout de suite pensé à la corruption en fait. Moi au départ je pensais qu'on allait parler simplement de corruption. Donc, on se demande pourquoi. Je vais très rapidement vous entretenir de corruption, mais pour en venir ensuite au thème qui a déjà été abordé par Daniel. Si mon iPad ne meurt pas et que je peux lire mes notes jusqu'à la fin de mon intervention. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que la corruption en tant que telle ? Bien, la corruption, c'est véritablement un détournement des institutions. On a tendance à voir que, en fait, lorsqu'il y a des phénomènes de corruption, on va se concentrer sur des actes individuels, mais on oublie en fait les éléments structurels. C'est-à-dire, en fait, la corruption existe précisément parce qu'il y a institution. Et dans une certaine mesure, la corruption ne veut pas mettre à mort la corruption. La corruption ne veut pas mettre à mort les institutions. Ce qu'elle veut, c'est s'en nourrir. Donc, elle doit réussir à les faire survivre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, disons, certains mécanismes institutionnels qui subsistent. Ce qui est à la fois, disons, une très bonne chose, parce que ça permet de faire en sorte que graduellement ces mécanismes se retournent contre ceux qui veulent les corrompre, d'accord ? Donc si l'institution demeure, alors il y a une possibilité de survie de l'institution qui peut en quelque sorte triompher de la maladie ou du virus qui la ronge, mais qui aussi fait en sorte que cette même corruption donc réussit à se donner un vernis de légitimité, précisément parce qu'elle utilise une institution en vue d'intérêts particuliers. Alors, ce qui fait le propre, en fait, aussi de la corruption, c'est le manque d'attention à l'égard des institutions. Ça m'apparaît particulièrement important. Et ce manque d'attention, il peut se vérifier en plusieurs sens. Il peut se vérifier par le fait que, justement, nous, en philosophie, nous nous intéressons parfois à des considérations sur la philosophie politique ou sur l'éthique qui sont éloignées de toute réalité. Daniel a souvent fait des remarques dans des colloques ou dans des groupes de lecture que parfois, on a l'impression que lorsqu'on lit un livre de philosophie politique aujourd'hui, c'est comme si on parlait de terre jumelle ou de quelque chose de très, très, très lointain ou d'une planète, bref, de science-fiction. Qu'en fait, la philosophie politique parfois s'éloigne véritablement des enjeux, disons, qui sont concrets ou qui sont plus porteurs pour le moment en politique. J'irai plus loin, c'est peut-être parce que la recherche, sous prétexte parfois d'une certaine objectivité, c'est-à-dire que la recherche sous prétexte, disons, d'une certaine distance, finit par mettre à distance les objets au point où ils n'ont plus les objets de la politique, au point où ils ne représentent plus, disons, de problèmes en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils deviennent des pures abstractions que nous pouvons penser indépendamment de toute contingence. Alors, il est très important en philosophie politique que nous soyons, disons, au-delà simplement des contingences en tant que telles, sinon nous serions réduits à un discours descriptif. Alors, il nous faut aussi nous éloigner des contingences pour, par exemple, être en mesure de présenter, disons, un scénario idéal ou une normativité qui ne dépendrait pas, qui ne serait pas simplement ad hoc, mais qui, véritablement, serait en mesure d'adresser plusieurs types de problèmes. Mais ce souci, parfois, nous amène aussi à développer une forme d'éthique qui ne vaut que pour elle-même. Et là, on se retrouve dans la situation que décrivait Daniel, c'est-à-dire de l'article qui est lu par 50 personnes. Et là, Daniel est peut-être généreux. Ça me conduit à, disons, à des considérations peut-être un peu plus personnelles sur ce qu'on appelle le devoir de réserve. C'est-à-dire que Il me semble que lorsque nous nous intéressons à des phénomènes comme la corruption, ou plus généralement le détournement des institutions, par exemple le détournement des institutions publiques, c'est-à-dire la corruption pour moi n'est que, je ne dirais pas l'épiphénomène, mais c'est-à-dire ce que l'on nomme corruption dans le discours, par exemple lorsqu'on s'intéresse au scandale de la corruption au Québec, pour moi c'est relativement un épiphénomène, c'est-à-dire que ce n'est que le résultat, en fait, d'un détournement plus fondamental des institutions en vue des intérêts particuliers, tant et si bien que celles-ci, graduellement, ne sont plus véritablement des institutions, puisqu'elles dépendent de toute une série de facteurs contingents qui sont liés précisément à leur appropriation pour des intérêts particuliers. Il suffit que ces intérêts particuliers ne soient plus présents pour que, graduellement, l'institution s'affaisse, jusqu'à ce que, disons, l'élément corrupteur finisse par changer de fruit, c'est-à-dire puisque la pomme a été mangée complètement, alors le ver cherche un autre fruit. Mais à quoi cela est-il dû ? Eh bien, je pense que cela est dû, en partie au fait que non seulement il y a détournement des institutions, mais il y a abandon des institutions en tant que telles. Et comment se vérifie cet abandon par rapport à la question qui nous préoccupe ? Eh bien, elle se vérifie notamment par le fait que des intellectuels, mais aussi mes collègues universitaires, tiennent tellement à garder les mains propres que graduellement les institutions sans les 10 deviennent de plus en plus sales, précisément parce que nous refusons de nous engager dans un travail critique par rapport au détournement des institutions. Donc il ne s'agit pas simplement pour des universitaires en éthique de dénoncer des cas de corruption, il s'agit de comprendre les causes profondes de cette dernière, et ce qui demande d'intervenir à plusieurs niveaux dans le débat social, c'est-à-dire à la fois dans les raisons profondes pour lesquelles il y a détournement des institutions, mais aussi de montrer quelles sont les étapes de ces détournements. Donc ça me paraît particulièrement important. Alors, ça suppose, et là, c'est là où je vais glisser quelques éléments, disons, plus personnels, ça suppose, comme Peter le rappelait tout à l'heure, parfois des interventions médiatiques. Alors, je connais plusieurs de mes collègues qui lèvent les yeux vers le ciel à chaque fois qu'ils voient un de mes articles dans Le Devoir, je les comprends moi aussi, ou ailleurs, surtout lorsque ceux-ci sont enveloppés d'un certain lyrisme, disons, de l'indignation. Et je peux très bien le comprendre, mais en même temps, cela fait partie aussi des différentes étapes, c'est-à-dire des différents moments où il y a un travail de philosophie politique et morale qui est fait, qui quitte le domaine, disons, de l'abstraction pour pointer des exemples concrets de détournement des institutions publiques. Et ça m'apparaît particulièrement important. Je suis sûr que Daniel, comme moi, a eu à de nombreuses occasions à se colter contre des gens qui nous accusaient d'abandonner notre devoir de réserve. C'est-à-dire que, normalement, nous ne devions présenter la question de l'éthique ou de la philosophie politique qu'en surplomb, indépendamment de toute contingence. Tant et si bien que, graduellement, lorsque nous parlons, par exemple, comme un thème comme celui des mains sales ou du détournement des institutions, alors nous ne serions plus en mesure, jamais, d'incarner ce souci dans une pratique. D'accord, pour faire le lien entre théorie et pratique, vous voyez à quel point je respecte le thème. Alors, d'incarner ce souci dans une pratique et d'intervenir dans le débat public de manière telle à ce qu'il y ait une véritable contribution, à ce que nous ne soyons pas tous dans une situation où nous avons tous les mains sales, c'est-à-dire que nous avons abandonné la place publique à ceux qui veulent la détourner pour des intérêts particuliers. Donc ça m'apparaît particulièrement important. Alors, ça suppose effectivement un rapport, parfois avec un équilibre, disons, très instable, entre, disons, une vie intellectuelle publique, d'intervention publique, mais aussi la recherche en tant que telle. C'est-à-dire, le danger, effectivement, c'est lorsque le souci d'investissement dans la vie publique, précisément parce que nous ne souhaitons pas que l'éthique demeure simplement, disons, une belle prosopopée, une belle rhétorique abstraite, mais qui n'a aucun effet, le danger est d'oublier le pas en arrière que nous devons faire, parfois pour nourrir cette réflexion sur le danger que nous vérifions au jour le jour dans des situations qui sont plus contingentes, si j'ose dire. Et ça, effectivement, ça m'apparaît un véritable problème. Mais il arrive que les mains sales obligent, parfois en ont levé au moins une, c'est-à-dire la gauche, de façon à ce que le poing soit tendu vers le ciel, ce qui aussi a tendance à décourager un certain nombre de collègues. Mais il arrive qu'il y a des moments cruciaux où le constat d'un dysfonctionnement des institutions amène à prendre un certain nombre d'engagements tels qu'ils peuvent paraître, donner l'impression d'avoir oublié les raisons profondes de cette réflexion politique en tant que telle. Alors que pour moi, ils sont un prolongement, c'est-à-dire ils sont un prolongement justement d'un effort de recherche et d'une, disons, une cohérence à l'égard d'une réflexion sur l'espace public ou au sein de l'espace public en tant que tel. Donc, je dirais, ça se vérifie à plusieurs niveaux, ça se vérifie dans une réflexion en surplomb des institutions, donc il arrive que parfois le débat public, le débat intellectuel demande d'avoir une réflexion en surplomb des institutions, c'est-à-dire de parler par exemple simplement des grands principes qui, par exemple, qui doivent gouverner, je ne sais pas moi, la relation d'une institution comme par exemple la police à ses citoyens. Mais il arrive aussi que cela se fasse au sein des institutions. Alors, ça peut se faire par des engagements personnels. J'ai vaguement, donner quelques indications des miens, mais je pense qu'une institution comme le CREUM a un rôle à jouer aussi au sein des institutions. Elle n'a pas à être simplement en surplomb des institutions. D'accord ? Donc, une des choses que Daniel a faites, qui a permis aussi à ce que le CREUM ne soit pas simplement en surplomb des institutions, mais au sein des institutions, c'est ses nombreuses participations au sein de rapports ou de commissions qui ont été soit au niveau gouvernemental ou à d'autres niveaux, et qui véritablement, tout à l'heure tu parlais de ce travail sur... sur la possibilité de l'euthanasie, du droit de mourir en dignité, ce sont des engagements qui sont faits non pas simplement sur une base personnelle, mais qui se font aussi par l'institut en tant que tel. Donc je pense que le CREUM, graduellement, est appelé sans jouer un rôle d'expert. Je pense que le grand danger, ce serait que le CREUM devienne une boîte d'expertise. Ça m'apparaît très 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 problématique, parce que la plupart du temps, lorsqu'on consulte des soi-disant experts, c'est en réalité parce que on ne veut qu'une caution à un message qui est déjà préécrit. Donc je pense que le CREUM peut jouer ce rôle critique et normatif au sein d'une société comme la nôtre, non seulement en surplomb, mais aussi en dialogue avec les autres institutions, et dans certains cas, en dialogue avec les autres institutions de l'université, par exemple, avec les autres institutions que sont les groupes de recherche. Mais ça peut signifier aussi que le CREUM est appelé à se prononcer à la fois en surplomb et au sein de l'institution sur des questions comme celle de l'éducation supérieure, par exemple. Ça m'apparaît un enjeu fondamental. Donc, je ne crois pas que le CREUM doit perdre sa vocation de recherche. Je ne crois pas que le CREUM doit perdre cette vocation profonde de recherche fondamentale. Mais il est très clair, depuis le début de l'aventure du CREUM, que celui-ci ne voulait pas s'enfermer dans une tour d'ivoire qu'il aurait créée de toutes pièces, c'est-à-dire dans une espèce de monde imaginaire où nous ne nous intéressons que à des scénarios très idéalisés. Le CREUM, depuis le début, est un intermédiaire, une courroie de transmission très importante, et je n'en vois pas beaucoup d'autres dans le monde de la recherche, et je le dis même de manière générale, je ne connais pas beaucoup d'institutions qui sont semblables ou qui se donnent cette vocation du CREUM d'être une véritable courroie de transmission entre une recherche fondamentale sur des enjeux parfois extrêmement complexes, comme par exemple en métaéthique sur le rôle des émotions, mais qui aussi tente de faire des ponts, lorsque nécessaire, lorsque pertinent, avec une série de problèmes très 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 concrets. Et en ce sens-là, c'est une réappropriation des institutions. En ce sens-là, cela veut dire avoir les mains sales, mais de manière telle à ce que nous puissions tous, dans la mesure du possible, les avoir les plus propres, afin de lutter justement contre ces dérives dont je parlais au tout début. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Christian.